Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bonjour à tous, Motors en direct jusqu'à 14h. Salut Jean Lecroix.
Eh bien, salut Louis Amar, bonjour Lucas, bonjour à tous.
Grand plaisir de te retrouver. À la une, la F1, la saison s'est refermée la semaine dernière à Abu Dhabi, mais des tests ont été effectués en vue de la suivante. Les principaux transferts, les nouveautés, les Français, on vous dit tout du championnat 2019 dans quelques instants. Et puis à 13h40, Radio Paddock avec notre invité Jean-Claude Ogrel. Nous reviendrons sur les essais de la semaine en MotoGP sur le circuit de Jerez. On vous parlera aussi de Sébastien Loeb. C'est parti pour Motors, bienvenue à tous. Deux directs en cours en ce début d'après-midi. On commence par le rugby, la suite de la 11e journée de Top 14, le match entre Perpignan et l'UBB. Salut Julien Landry.
Salut Louis, salut à tous. C'est parti depuis une demi-heure ici à Aimé Giral et ce sont les Catalans qui mènent 5-0 à un essai du capitaine de Carl Chateau. Les Catalans qui n'ont pas remporté le moindre match cette saison en Top 14. 10 matchs, 10 défaites qui sont en train peut-être de se diriger vers ce premier succès. En tout cas, ils font tout ce qu'il faut pour s'imposer à, alors on va pas dire cet après-midi, à midi contre les Bordelais. Ils dominent ils sont dans l'avancée et ils sont en train de martyriser un petit peu l'UBB. La demi-heure de jeu à Aimé Giral, 5-0 pour les Catalans.
Et puis le foot anglais, la suite de la 14e journée de Premier League. Chelsea accueille Fulham. Salut Jordan Olivier.
Salut Louis, salut à tous. 5 minutes de jeu et déjà 1-0 pour Chelsea face à Fulham. Un but de Pedro sur un service parfait d'N'Golo Kanté. N'Golo Kanté titulaire, un autre Français est également titulaire. C'est Olivier Giroud qui a été préféré à Alvaro Morata et qui est en forme puisqu'il reste sur un doublé contre Salonique en Ligue Europa. Match déséquilibré sur le papier et sur le terrain. Grosse domination des Blues, 6 minutes de jeu, 1-0 pour Chelsea.
Et grosse journée de foot anglais à venir sur RMC, puisque deux derbies sont au programme de l'après-midi. Arsenal-Tottenham à 15h05, Liverpool-Everton à 17h15. Tout cela évidemment à suivre dans l'intégral sport. Et puis en foot encore, je vous rappelle cette information. L'équipe de France affrontera l'Islande, la Turquie, l'Albanie, la Moldavie et l'Andorre dans son groupe de qualification à l'Euro 2020. On attend la réaction de Didier Deschamps en direct de Dublin au micro de Timothée Mémon. Évidemment, vous vivrez ça sur RMC. 13h06, vous écoutez Motors, tout de suite la F1.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Avec Lucas Vinois, salut Lucas.
Salut Louis, salut Jean-Luc, bonjour à tous.
Qui revient de son tour du monde.
Exactement.
C'était comment ce tour du monde?
Ah, c'était bien, un beau championnat et puis des beaux adieux, une belle dernière course avec Alonso qui a fêté son départ encerclé par Hamilton et par Vettel. C'était magnifique.
On te garde à Paris jusqu'au milieu du mois de mars où tu repartiras dans tes pérégrinations. L'année de Formule 1 s'est donc achevée la semaine dernière à Abu Dhabi et le classement de la course est un peu comme une photo de la saison. Hamilton vainqueur, Vettel derrière lui, Verstappen 3e, brillante 7e place pour Charles Leclerc qui disputait son dernier Grand Prix avec Sauber. Dans un instant, on va s'arrêter sur les essais du début de la semaine à Abu Dhabi, se projeter sur 2019. Mais avant ça, Jean-Luc, quel bilan tu tires de l'année qui s'achève? Est-ce que tu as aimé cette saison?
Oui, non. Comme toujours. Alors oui, parce que j'ai naturellement apprécié au plus haut niveau cet affrontement entre deux des plus grands pilotes de la Formule 1, quoi qu'il arrive, Lewis Hamilton, qui n'était encore que 4 fois champion du monde, et Sébastien Vettel, qui l'était déjà, lui, depuis un moment. Donc j'avoue, un peu comme l'an dernier, je dois être honnête, la première moitié de la saison m'a beaucoup plu parce qu'il y avait de l'incertitude. On ne savait pas vraiment qui allait prendre le pas. Et puis, il y a eu un tournant, c'est clair, et Vettel n'a pas su malheureusement tenir ce cap. Il a été ultra dominé par Lewis Hamilton, qui a remporté 8 de ses 11 victoires de la saison, globalement dans la deuxième partie, hein, dans les 10 à 11 derniers Grands Prix de la saison. Donc, on a vu que Vettel était même perdu, on l'a vu commettre des erreurs auxquelles on ne doit pas s'attendre quand on est 4 fois champion du monde. Il l'a dit, il l'a reconnu, lui aussi, il veut vraiment retrouver des forces. Donc, c'est vrai que je suis ravi pour Hamilton, qui est encore une fois une légende et largement de la Formule 1. Il a égalé maintenant Juan Manuel Fangio, 73 victoires en Grand Prix, rends-toi compte. Il n'est plus, j'ose dire, qu'à 18 victoires du record qu'on pensait inaccessible de Michael Schumacher. Donc c'est bravo à Lewis Hamilton, qui est en plus, je pense, vraiment un type enthousiaste, passionné. Lucas l'a rappelé, ce final grandiose avec les donuts, tiens, tant mieux, il y a quelques années c'était interdit, les pilotes étaient sanctionnés. Moi, je suis ravi de voir ça. Écoute, il y avait de la jubilation dans l'air, donc c'est formidable.
Est-ce que, Jean-Luc, d'après toi, Hamilton s'est imposé parce qu'il a été le plus fort, parce qu'il est le plus fort de sa génération, ou parce que ses adversaires ont commis trop d'erreurs?
Ah, c'est clair qu'il est le plus fort de sa génération et de beaucoup. Et le martelage, le pilonnage, j'allais dire, psychologique, intelligent, parce que ça n'est, il n'a jamais utilisé de moyens détournés. Enfin, jamais. Là aussi, on sait pas ce qui se passe entre eux. Mais bon, on a vu quand même la convivialité qui pouvait régner à partir du moment où Vettel a compris que c'était fini pour lui. Et pourtant, Vettel, il était vexé, comme tout, d'être dominé. Donc je pense que, Hamilton a gagné parce que c'est le plus fort dans tout les compartiments du jeu, parce qu'il n'a pas toujours piloté la meilleure monoplace du plateau, loin s'en faut, et quand Vettel avait, lui, la meilleure monoplace du plateau, bah, soit lui, soit son équipe ont commis des petites erreurs, et donc forcément bah, le meilleur triomphe aussi, parce que les autres se prennent les pieds dans le tapis.
On y revient dans un instant, mais un essai a été inscrit dans le match entre Perpignan et l'UBB, Julien Landry.
Ouais, un essai des Bordelais qui reprennent le score 7-5 pour l'UBB sur un ballon récupéré au milieu de terrain, et le ballon qui est sorti vite sur l'extérieur avec Nance Duclin qui a lancé magnifiquement son ailier pour aller marquer cet essai entre les poteaux, transformé évidemment par Brock James. C'est Buros qui a marqué cet essai. Ça fait 7-5 pour l'UBB. Encore 5 minutes à jouer dans cette première période.
Dernier match de cette 11e journée de Top 14 tout à l'heure à 16h50. C'est un choc entre le Stade Toulousain et le Stade Français. Vous suivrez cela dans l'intégral sport évidemment en direct sur RMC. 13h10 pour l'instant, c'est Motors. Lucas, il y a eu cette semaine des premiers essais. À peine la saison était terminée que la suivante s'ouvrait. Les premiers essais à Abu Dhabi, quels en ont été les résultats?
Est-ce que c'est un bon présage pour Charles Leclerc qui a mis sa monoplace tout en haut, puisqu'il a fait, il a réalisé tout simplement le meilleur temps devant Sébastien Vettel. Alors après, il faut toujours relativiser, on ne sait jamais vraiment les quantités d'essence embarquées, sur quelle stratégie les équipes étaient engagées. Est-ce que c'était les longs relais? Est-ce que c'était des relais un petit peu plus courts pour aller chercher de la vitesse de pointe réellement? Donc c'est difficile, mais en tout cas, il s'est bien acclimaté puisqu'il a signé le meilleur temps devant Sébastien Vettel. Vettel qui a commis une petite erreur, qui a endommagé un petit peu sa monoplace. Alors est-ce que c'est le début de la saison 2019 pour Vettel, ou est-ce que c'est la fin de saison 2018?
Ah bah tiens, ça, ce genre de questions, on va la refiler à Jean-Luc.
Vaut peut-être mieux penser que c'est la fin de la saison 2018.
Jean-Luc, ton avis là-dessus?
Ah bah oui, là vous me mettez au pied du mur ou de la grille de départ. Et ben je crains que ce soit la continuation. Voilà, je vais bien m'en sortir. Et la continuité. Écoute, oui, bah c'est excellent pour Charles Leclerc, hein, puisque Lucas vient de le rappeler. Écoute, depuis le temps, à chaque fois j'ai des scrupules, même tellement à m'émerveiller de son talent, parce que je me dis qu'effectivement, bon, la pression il l'a, hein, naturellement, donc il faut pas en faire trop. Mais écoute, c'est formidable. Il avait déjà été en tête d'une séance d'essai privé lorsqu'il avait pris le volant de la Ferrari il y a déjà pas mal de temps, c'était en Hongrie. Donc là, après 135 tours, 1.36.450, il colle pratiquement 4 dixièmes à Vettel, certes, la veille. On ne sait jamais exactement comment se trouve, dans quel état se trouve la piste. Et puis, on sait bien que ces tests organisés par Pirelli avaient pour but de confronter les pneumatiques 2018 aux enveloppes 2019. Donc, il faut toujours tout relativiser. Il n'empêche, avoir Leclerc devant Gasly lors de la deuxième journée d'essai, c'est quand même formidable. Et puis, Vettel et Bottas au premier rang. Bon, on rappelle que tous les pilotes dans ces cas-là ne sont pas présents pour ces essais.
Bien sûr. Et on rappellera que Leclerc a réalisé son meilleur temps avec le composé pneumatique de 2019, alors que Vettel, lui, a signé le meilleur temps avec le composé pneumatique de 2018. Après, oui, Gasly de 5e devant Max Verstappen, a noté la 16e place de Robert Kubica, de la 17e de Kimi Raikkonen. Robert Kubica qui a un volant différent de celui de Lance Stroll. Lance Stroll a été annoncé, ça y est, chez Force India cette année, et on a comparé donc le volant de l'année dernière, enfin de 2018 pour Lance Stroll chez Williams, c'est celui de Robert Kubica, et les commandes sont un petit peu inversées pour s'adapter au handicap du Polonais.
Jean-Luc, quel est l'intérêt de ces essais de fin de saison? D'ailleurs, est-ce qu'il faut plus considérer ça comme des essais de fin de saison ou des essais d'avant-saison?
Clairement, là, ce sont des essais d'avant-saison, puisque le but, on vient de le rappeler avec Lucas, c'est effectivement de tester les enveloppes Pirelli 2019, dont on espère, comme chaque année, évidemment, qu'elles permettront enfin aux pilotes d'attaquer. Alors, il faut pas être trop dur non plus avec nos amis de Pirelli, par parenthèse, qui ont signé jusqu'en 2023. Donc, on va continuer avec ces enveloppes. En tout cas, au niveau de la dénomination, on va arrêter de vous saouler avec les hyper soft, les ultra soft, les machins auxquels nous, on comprend plus rien au bout d'un moment. Pour chaque Grand Prix, il y aura les tendres, les moyens et les durs. On va la faire simple. Alors, même si cette appellation ne recouvrira pas la même qualité de gomme. Ça, on s'en moque un peu, on va le laisser aux ultra spécialistes. Donc ça avait pour but d'évaluer les performances, et logiquement, et tu vois, je vais encore aller dans le sens de Charles Leclerc, et Lucas ne me contredira pas, les enveloppes 2019 sont censées être un poil moins rapides, peut-être parce que plus constantes, se dégradant moins vite. Donc tout ça est à vérifier naturellement, c'est pour ça qu'il faut les prendre avec des pincettes, mais clairement, pour répondre à ta question, oui, c'est une projection sur 2019.
Mais est-ce qu'ils veulent dire quelque chose, ces essais? Est-ce qu'il faut en tirer des conclusions?
Oui, et de toute façon, c'est toujours mieux d'être en haut de la feuille des temps que qu'en bas, c'est une évidence. Ça démontre la capacité, le potentiel. Alors tu vas me dire, c'est un peu contradictoire, parce qu'on a effectivement les deux pilotes Ferrari, Vettel pour les temps du premier jour et Leclerc pour les temps du deuxième, qui devance en l'occurrence la Mercedes de Bottas au deuxième rang, et puis la Red Bull de Gasly au deuxième rang le deuxième jour. Alors on va dire que c'est contradictoire, puisque Mercedes est champion du monde, mais je rappelle, et ça va être très dur hein, pour Valtteri Bottas, qui lui aussi, puisqu'on est aussi un petit peu dans les conclusions de l'année 2018, se remet en cause. Il n'a gagné aucun Grand Prix, Valtteri Bottas, même si on l'a privé, on le rappelle toujours, de la victoire en Russie, même s'il n'a pas eu de chance à d'autres endroits, en Azerbaïdjan, où on veut, n'empêche qu'il n'a pas gagné de Grand Prix. Donc il le sait lui-même, il l'a dit, c'est sa plus mauvaise saison depuis 2013, donc ça veut dire que peut-être avec Hamilton au volant de la Mercedes, tu me vois venir, c'est peut-être lui qui aurait été en haut de la feuille des temps en termes d'essai.
Peut-être. En tous les cas, Valtteri Bottas sera chez Mercedes encore la saison prochaine. On va revenir sur les principaux transferts avec toi, Lucas, dans une seconde. Avant cela, c'est vrai qu'il faut ajouter au manque de performance de Valtteri Bottas en termes de résultats, le fait qu'il pilotait clairement la meilleure voiture, et ce depuis de nombreuses années. Écoutez ces chiffres. Depuis 2014 et l'introduction des moteurs hybrides, Mercedes, sur 100 Grands Prix pile, c'est 74 victoires et 84 pole positions. Jean-Luc, qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne continue pas l'année prochaine ?
Alors écoute, il y a un certain nombre de changements techniques, aérodynamiques en l'occurrence, portant notamment sur l'aileron avant. On s'est assez insurgé, je me suis assez insurgé contre cet empilage parfois totalement ridicule de lamelles de carbone. On va simplifier tout ça, on va revenir peut-être en partie à des monoplaces un peu plus agréables à regarder déjà, et puis surtout un peu plus, parce que ça coûte évidemment des millions de dollars ce développement en soufflerie. Donc on va avoir une partie avant et puis une partie sur les côtés également, plus simplifié, tout ça pour retrouver la faculté pour les pilotes de dépasser plus facilement en ligne droite avec le DRS, mais de manière naturelle. Donc oui, on peut s'attendre en 2019 à une certaine redistribution des cartes. Maintenant, je ne vois véritablement pas comment Mercedes pourrait perdre la main malgré ces changements. Comme on le dit toujours, à moins qu'une écurie ait trouvé la solution miracle, et je rappelle évidemment, on le sait, l'équipe qui avait gagné avec Jenson Button, qui était l'ancienne équipe Honda. On sent, voilà, l'équipe Brown, exactement, qui a un carton plein, une année de participation en championnat du monde de Formule 1, et les titres de champion du monde, pilote et constructeur, parce qu'ils avaient trouvé le fameux diffuseur extraordinaire. Donc ça veut dire que ça peut arriver, c'est de la technique. Maintenant, plus ça va, plus la Formule 1 est encadrée, la solution miracle, on la voit pas toujours venir.
Lucas, est-ce que dans le paddock, que tu as fréquenté les trois quarts de la saison quasiment, on en a marre de cette domination de Mercedes?
On aimerait bien forcément que les cartes soient redistribuées. Maintenant, c'est très compliqué, c'est presque arithmétique. C'est-à-dire que plus vous avez de moyens, plus vous avez de chances de faire des tests, comme le disait Jean-Luc, en soufflerie, sur le moteur, etc., plus vous avez de chances que ça réussisse. Aujourd'hui, le plus gros budget, les deux plus gros budgets sont ceux de Mercedes et ceux de Ferrari. On parle de 1700 personnes impliquées dans le projet Formule 1. Vous prenez l'exemple de Renault, c'est 900 personnes. Donc il y a un moment où le nombre et les moyens font aussi le côté compétitif. Une écurie comme Haas, c'est 700 personnes avec des budgets qui sont beaucoup plus réduits, même si on récupère ce que fait Ferrari, puisque on est un peu dans une sorte d'écurie bis. Mais maintenant, voilà, c'est comme le foot, hein. Vous prenez le foot, plus vous avez de moyens, plus vous avez de chances de gagner. Regardez le PSG en France, la Formule 1 répond aussi à cette formule-là, malheureusement. Alors de temps en temps, on a quelques surprises, mais c'est vrai que ça fait longtemps, ça fait combien de grands prix que ce n'est pas Ferrari, Red Bull ou Mercedes qui l'a emporté. C'est peut-être Kimi Raikkonen sur sa Lotus en 2013, il me semble, le dernier grand prix non remporté par les trois fantastiques.
Jean-Luc, en termes de calendrier, on en est où là, au jour où on se parle, de la confection des voitures pour la saison prochaine? Est-ce qu'elles sont livrées? Est-ce qu'elles sont terminées? Est-ce qu'elles existent déjà physiquement?
Non, elles ne sont pas terminées pour la bonne raison qu'effectivement les études et les développements sont en cours. On travaille autant qu'on peut le faire en soufflerie. Et puis il y a quand même quelques changements dans les équipes qui sont en train de s'opérer. Donc effectivement les nouveaux venus, certains étaient soi-disant en train de s'occuper de leur jardin pendant quelques mois, donc sont officiellement en poste maintenant. Et puis ensuite on doit subir les crash tests avec les nouvelles monoplaces terminées. Donc pour le moment on est toujours dans ce travail de développement qui va affecter une nouvelle fois l'aérodynamique et puis l'adaptation pneumatique dont nous venons de parler, puisque c'est la clé. Hein. Très clairement, j'utilise toujours cette paraphrase en disant il y a quelques centièmes de seconde dans les moteurs, quoi qu'en dise évidemment Red Bull avec Renault. Oui, ça évidemment que ça contribue au résultat, on va pas dire le contraire, mais moins qu'avant, l'aéro, eh bien ce sont plusieurs dixièmes de seconde, et dans les pneus, ce sont des secondes pleines que l'on trouve si on est capable d'exploiter ces pneumatiques. Donc le travail porte essentiellement sur le mariage, entre guillemets, l'exploitation à la bonne température du châssis et des pneumatiques.
Dans un instant, on évoque les principaux transferts en vue de la saison 2019. Avant cela, on fait un tour de nos directs. C'est la mi-temps au rugby entre Perpignan et l'UBB, Julien Landry.
Exactement. Louis, un score en faveur des Bordelais qui mène 7-5. Un essai de Karl Château pour les Catalans. Et Buros qui permet à l'UBB de passer devant à la mi-temps 7-5 pour les Bordelais.
Le foot anglais, la 14e journée de Première Ligue. Le derby londonien, premier du jour entre Chelsea et Fulham, Jordan Olivier.
19 minutes de jeu, c'est Chelsea qui mène 1-0 face à cette équipe de Fulham en grande difficulté dans le championnat anglais. 20e et qui a bien du mal aujourd'hui à se créer des occasions. Il y a bien Callum Chambers qui a tenté sa chance il y a quelques instants aux 20 mètres, mais une frappe trop timide bien captée par Kepa, et donc c'est bien Chelsea qui mène 1-0 après 20 minutes de jeu.
Et puis en foot également, je vous rappelle l'information de ce début d'après-midi, l'équipe de France connaît ses adversaires en éliminatoire de l'Euro 2020. Les Bleus seront dans le groupe H avec l'Islande, la Turquie, l'Albanie, la Moldavie et l'Andorre. D'ici quelques minutes, vous entendrez Didier Deschamps en direct de Dublin au micro de notre envoyé spécial Timothée Mémon. 13h20, vous écoutez Motors en direct sur RMC. Lucas, on continue à débriefer la saison de F1 2018. On va surtout se tourner vers 2019. On parlera de nos Français dans quelques instants, mais d'abord, rappelle-nous les principaux transferts en vue de la saison prochaine.
Ah, je pense que le principal, et on s'entendra là-dessus, c'est Daniel Ricciardo qui a quitté Red Bull pour rejoindre Renault. C'est un transfert surprise, c'est vrai que personne ne s'y attendait. La signature de Daniel Ricciardo chez Red Bull se faisait attendre, et à la surprise générale, il a décidé de rejoindre l'écurie au Losange. Il sera aux côtés de Nico Hülkenberg. Il faudra voir, ça va être intéressant. C'est un line-up, un duo de pilotes plutôt intéressant. Autre transfert, et celui-là peut-être que on l'attendait, on l'espérait en tout cas pour la belle histoire, c'est celui de Robert Kubica chez Williams, qui fait son grand retour après 8 ans d'absence, 8 ans après son très très grave accident en rallye. Robert Kubica donc qui va essayer de montrer qu'il est capable malgré son handicap, on le rappelle, hein, à la main droite, il conduit quasiment exclusivement avec la main gauche. Il va essayer de montrer qu'il est encore compétitif. Et puis le dernier peut-être, voilà, il y avait quelques rumeurs, et puis finalement ça s'est décidé assez tardivement. C'est Alexander Albon qui va rejoindre Toro Rosso, qui va donc faire ménage avec Daniil Kvyat, qui lui fait son énième retour en Formule 1. Donc voilà, on peut ajouter aussi George Russell, Lando Norris. En tout cas, ça a beaucoup bougé entre la saison 2018 et la saison 2019.
Jean-Luc, qu'est-ce que tu retiens de tous ces transferts-là?
Ben, l'arrivée des jeunes, Lucas vient de le dire, effectivement, le trio de tête de la Formule 2, qu'on suit toujours d'un œil très attentif, puisque ces épreuves se déroulent souvent en prémisse des Grands Prix de Formule 1. Et là, on a George Russell, on le savait depuis un moment, donc qui arrive effectivement, qui est un Britannique, et c'est important, puisque les Britanniques auront donc trois pilotes, avec Lando Norris, bien sûr, et Lewis Hamilton sur la grille 2019. Donc à ce titre, c'est la première nation, puisque les Français vont perdre Esteban Ocon, on va en parler dans un instant, entre guillemets sur la grille en permanence. Donc je retiens l'arrivée de jeunes pilotes, et ça c'est toujours rafraîchissant. Maintenant, on l'a évoqué rapidement, je déplore comme tout le monde, je crois qu'il va beaucoup nous manquer, Fernando Alonso, même si malheureusement il a connu des saisons noires, on peut pas dire dramatiques en Formule 1 avec McLaren. Ça c'est effroyable, voir cette équipe sombrer pavillon bas, j'ose dire. Et puis on perd Van Dorn et Ericsson. Alors pour ça qu'il faut se garder malheureusement d'appréciation dithyrambique sur les jeunes pilotes, parce que ça dépend naturellement de l'écurie qu'on intègre, ça dépend de la monoplace dont on dispose, ça dépend de beaucoup de facteurs. Stoffel Van Dorn, je le rappelle, était le phénix Voilà, il y a quelques saisons, et malheureusement, à cause de cette McLaren, on va dire, infâme, il n'a pas réussi à montrer son talent, il ne l'a pas perdu, son talent.
Mais ce qui est assez intéressant aussi, on dit souvent que la F1 est une affaire aussi d'opportunité, qu'il faut arriver au bon endroit au bon moment. Stoffel Vandoorne avait remporté le championnat F2, avait dû s'exiler au Japon avant de venir en Formule 1. Pierre Gasly a fait la même chose, et là on se rend compte qu'il y a trois pilotes de Formule 2 qui montent directement en Formule 1. Non pas qu'ils sont plus talentueux, mais c'est aussi une affaire d'opportunité. Il faut être au bon endroit au bon moment, c'est ça aussi la F1. Et cette année, en tout cas, c'est un bon cru pour la Formule 2, puisqu'il y a trois accessions en Formule 1.
Mais est-ce que ça montre aussi, Jean-Luc, qu'il y a un manque de vivier, si on est obligé de faire monter plus rapidement des jeunes pilotes issus de la F2?
Ah non, là c'est la voie logique. Hein. Ce qu'on peut déplorer, et on le fait chaque saison également, c'est qu'il n'y ait pas assez de baquets en Formule 1. Moi ouais. Je le dis et je le répète, mais tant que les budgets seront démentiellement élevés comme c'est le cas, et là je ne vois rien venir à l'horizon, hein. Malheureusement, on parle beaucoup de la réglementation 2021, on l'a évoqué au cours de la saison, on continue à discuter, aucune décision n'a été prise en matière de moteur, donc c'est quasiment trop tard. Donc ça veut dire qu'on va encore garder ce moteur, qui coûte, pardonnez-moi l'expression, mais vraiment la peau des fesses, c'est une hérésie totale quand on voit que les manufacturiers, les constructeurs de moteurs facturent plus de 20 millions simplement pour 3 moteurs par saison. C'est grotesque. Les développements aéro, nous venons d'en parler. Bref, le coût de la Formule 1 est trop élevé. Donc, ça veut dire qu'on n'a que 20
de
place.
Jean-Luc, je te coupe. Oui. Didier Deschamps à Dublin, au micro de Timothée Mémon, qui réagit au tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2020.
Comment on qualifie un groupe comme celui-ci?
C'est à vous de le qualifier. Non, nous, on doit se qualifier. Après vous, vous avez le droit d'utiliser les qualificatifs. C'est comme ça. Après, ça aurait pu être pire, ça aurait été mieux. Peu importe, quoi. Aujourd'hui, on connaît nos 5 adversaires, le calendrier pour savoir le match. 30 points à prendre, donc faire en sorte d'en prendre plus que nos adversaires pour se retrouver à l'Euro 2020.
Islande, un match aussi avec des Moldavie, Andorre, voilà les adversaires Islande, de l'équipe de France en éliminatoire de l'Euro 2020. Réaction de Didier Deschamps en direct.
Je pense que aujourd'hui il y a des ambiances chaudes dans certains pays, mais pour tous les pays, le fait de rencontrer la France avec ce titre de champion du monde, évidemment que c'est un honneur pour eux, mais après sur le terrain ça va être une belle bataille aussi. Donc évidemment c'est une affiche pour tous nos adversaires, mais notre objectif, je vous le répète, c'est d'être toujours le plus performant possible et prendre plus de points que nos adversaires.
Vous craignez un peu ce syndrome qu'on pourrait qualifier syndrome Paris Saint-Germain, c'est-à-dire vous êtes champion du monde, les équipes vont être non, mais ce que je veux dire, c'est que les adversaires un peu plus modestes vont être surmotivés contre vous.
Oui, mais ça on le sait depuis notre parcours en Russie, c'est comme ça. C'est vrai que pour la National League, c'était des affiches parce qu'il y avait l'Allemagne et les Pays-Bas. Là, c'est peut-être pas des affiches, mais c'est pas pour autant qu'on va négliger tout ce qui est observation et analyse pour avoir toutes les informations et jouer avec le plus grand sérieux tous nos adversaires.
Didier, un petit mot sur le ballon d'or. Si c'est pas un Français qui l'a,
eh ben, ça sera un autre.
Est-ce que ça dévaloriserait la Coupe du Monde finalement par
question sur le ballon d'or à Didier Deschamps, le trophée sera remis demain.
J'ai pas envie de rentrer dans ces débats-là, c'est pas moi qui vote, vous savez qui vote. Après, voilà, je vous dis, je vous répète que j'espère et je souhaite que ça soit un Français. De toute façon, c'est pas dire si c'est pas un Français que celui qui le gagne ne le mérite pas. Celui qui le gagne le méritera de toute façon. Mais par rapport à ce que certains joueurs français ont fait en équipe de France avec ce titre mondial et avec les performances dans leur club, oui, ils mériteraient. Après, on aura la réponse demain.
Merci. Voilà, Didier Deschamps qui s'est invité dans Motors, invité exceptionnel au micro de Timothée Mémon en direct de Dublin pour revenir sur ce tirage au sort, donc des éliminatoires de l'Euro 2020 qui a réservé un groupe assez favorable, disons-le comme ça, à l'équipe de France, le groupe H avec l'Islande, la Turquie, l'Albanie, la Moldavie et l'Andorre. Jean-Luc, je ne te demande pas une réaction sur ce tirage au sort.
Écoute, j'apprécie toujours, mais vraiment, là, tu sais, le foot, c'est pas ma partie, mais la clarté, la lucidité de Didier Deschamps, il y a pas, là aussi, il faut un très bon capitaine, tu sais, pour gagner. C'est peut-être ce qui a manqué à certaines équipes également.
Il est parfait, ce Jean-Luc.
Magnifique.
13h28, dans un instant, on revient à la Formule 1, on vous parlera de nos Français, on vous dira tout de ce qu'ils feront en 2019. À tout de suite sur RMC.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
13h30 sur RMC, vous écoutez Motors, merci d'être avec nous, avec Jean-Luc Roy, avec Lucas Vinois, dans un quart d'heure. Radio Paddock, nous serons avec Jean-Claude Augrel, notre invité ancien pilote moto. Mais tout de suite, on continue à parler.
RMC Motors, le French's Corner.
Ils ne seront plus que deux en 2019, deux Français et un Monégasque. Exit Esteban Ocon, relégué pilote de réserve pour Mercedes avant, espère-t-il, de retrouver un baquet en 2020. Lucas, d'abord un mot sur le classement de nos Français en 2018 pour bien resituer leur performance.
Et ben c'est un joli tir groupé. Écoute, Esteban Ocon, 12e. Alors, Leclerc, qu'on assimile un petit peu à un Français, même s'il est Monégasque, il faut le dire. C'est quand même Jean-Luc qui nous a soufflé ça, il faut le dire. Hein. Oui. 13e, Leclerc. 14e, Grosjean, et 15e Gasly. Donc voilà, joli tir groupé. Voilà, c'est vrai que le problème pour Esteban Ocon, c'est que c'est le seul avec Romain Grosjean à avoir été battu par son coéquipier cette année.
C'est vrai. L'autre problème, Jean-Luc, quand on regarde ce classement, c'est encore un petit peu enfoncer le couteau dans la plaie, mais bah, le meilleur Français, il sera à pied l'année prochaine. Voilà.
Oui, c'est déplorable. On le regrette vivement. On a vraiment tout essayé, je crois. Puis on a pêcher un petit peu par justement abus de position dominante chez Mercedes. En disant, bon, bah, de toute façon, il va bien se retrouver quelque part. Bah non, Toto Wolff, désolé. Et là, c'est un échec, allez, je vais pas dire personnel pour lui, mais si quand même, hein, mais il n'y a pas de secret. On n'a pas voulu, effectivement, ce qu'on pensait être la solution. On n'a pas voulu faire un rabais. Alors, reste à savoir à quel niveau. Je parlais du budget d'environ 20 à 25 millions de dollars pour Mercedes par écurie. Bah, on aurait fait cadeau peut-être d'une dizaine de millions ou d'une quinzaine de millions à Williams. Peut-être Ocon serait au volant d'une Williams. Enfin bon, on va pas commencer à tergiverser là-dessus. En tout cas, c'est très dommage de voir effectivement un pilote rapide, tout le monde s'accorde à le dire. Les meilleurs lui ont dit, Hamilton, Vettel, puis nous le savons, déterminé, perdre, je l'espère, une seule saison. Et puis sait-on jamais, je ne souhaite pas de mal à Valtteri Bottas, vraiment, qui est un garçon sympa, mais s'il continue à être en demi-teinte, allez savoir. Ce serait évidemment une sanction terrible pour lui, mais Ocon est évidemment dans la meilleure équipe, il est troisième pilote, on va essayer de le faire rouler au maximum. On le verra même peut-être rouler, allez savoir aussi, quelques vendredis matin si Bottas ne fait pas l'affaire en 2019. Donc il va falloir se contenter de cette situation.
D'ailleurs, à ce sujet, Jean-Luc, on a été glaner quelques informations dans le paddock d'Abu Dhabi pour Esteban Ocon en vue de la saison 2020. Et la priorité, ça ne serait pas Mercedes. En tout cas, on dit qu'on travaille pour Esteban Ocon dans le board de Mercedes et dans son entourage proche pour une autre écurie que Mercedes. Donc on fait vraiment confiance à Valtteri Bottas. Il faut le dire aussi qu'il y a une situation de confort chez Mercedes aujourd'hui. Bottas ramène des points à Mercedes, ne dérange pas le pilote numéro 1 qui est Lewis Hamilton.
C'est le moins
qu'on puisse dire.
Oui.
joli regard de Louis d'ailleurs. Et puis c'est vrai qu'il se plie aux ordres, Valtteri Bottas. Donc il est docile.
C'est le moins qu'on puisse dire aussi.
Il est docile. Donc,
joli regard de Jean-Luc.
Donc il se plie aux ordres, alors que Esteban Ocon, lui, s'il vient chez Mercedes, il aura les dents longues et il voudra bouleverser les plans en tout cas de Lewis Hamilton, et pas sûr qu'on veuille de ça chez Mercedes. On le rappelle, ça a été compliqué de gérer l'écart Rosberg-Hamilton.
Et puis il faut rappeler, dernière chose, parce qu'on a beaucoup parlé d'Esteban Ocon déjà, donc on va refermer ce chapitre, mais que Toto Wolff, le patron de Mercedes, est un peu pris entre deux feux, parce que Valtteri Bottas, c'est un de ses poulains, ça a été son premier manager.
Exactement.
C'est un pilote qu'il aime beaucoup, et Esteban Ocon aussi, c'est un pilote qu'il est allé chercher alors qu'Esteban Ocon végétait un petit peu. Il l'a lancé en GP3, il lui a fait confiance, il l'a placé chez Force India, donc c'est humainement aussi une situation délicate à gérer pour Toto Wolff, qui un peu pris entre ces deux enfants, en tout cas de cœur. Il y en aura quand même des Français sur la grille la saison prochaine. Lucas, rappelle-nous ce qu'ils feront, Romain Grosjean et Pierre Gasly.
Alors, pour Romain Grosjean, c'est un statu quo. Hein. Il a été conservé chez Haas. Un début de saison extrêmement compliqué, lui-même l'a reconnu. Et puis, la situation s'est débloquée en Autriche avec une magnifique quatrième place. Il avait la tête un petit peu à l'envers, Romain Grosjean. Il se l'est remise à l'endroit et ça a été beaucoup mieux. Il a enchaîné plus de 10 Q3 d'affilée. Donc, une très belle deuxième partie de saison. C'est vrai que c'est un petit peu regrettable. Mais bon, Haas lui a fait confiance parce qu'il est arrivé au début, parce qu'il a toujours soutenu le projet. Et la promotion elle est pour Pierre Gasly, hein, magnifique promotion, puisque il va tout simplement rejoindre Red Bull, la grande écurie Red Bull, aux côtés de son pote Max Verstappen. On verra si dans 6 mois ils sont toujours potes, mais en tout cas voilà, des belles perspectives d'avenir pour Pierre Gasly. La méga promotion, elle est à mettre à l'actif de Charles Leclerc,
bien sûr, ça on y reviendra bien sûr. Promotion vraiment pour Pierre Gasly, Jean-Luc, je pose la question, je sais qu'elle est provocatrice cette question, parce que forcément, oui, il est passé de l'écurie satellite à l'écurie leader. Mais c'est une écurie leader, Red Bull, qui va changer de moteur, qui sera équipée d'un Honda la saison prochaine. Est-ce qu'elle va continuer à rouler, cette Red Bull ? Est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné pour Gasly ?
Ah, c'est évidemment une très très bonne question. On est confiant du côté de chez Red Bull. On a beaucoup parlé avec Honda. On a noté quand même que le moteur Honda a progressé puisque Pierre le pratiquait, l'utilisait ce moteur chez Toro Rosso, et je pense que c'est aussi un argument très important qui a permis son accession à l'écurie majeure avec le départ que rappelait Lucas, bien évidemment d'abord de Ricciardo chez Renault. Mais je pense que c'est quand même, on a des assurances. Moi, je ne peux pas imaginer que Red Bull, ou alors ils sont totalement plantés. Bon, on a vu qu'aussi au niveau de la sélection des pilotes, on était capable de se louper, hein, puisque on a bien été récupéré Albon qu'on avait viré en 2012, on a été récupéré Kvyat qu'on avait viré l'an dernier. Bref, donc au niveau de la politique pilote, il y a parfois
on vire beaucoup chez Red Bull aussi. Hein. C'est quand même c'est la politique de la maison. Hein.
Ouais, il y a beaucoup d'errance, donc j'espère d'abord pour Red Bull, pour l'intérêt du championnat, parce qu'encore une fois, une bataille à trois, Mercedes, Ferrari, Red Bull, ce serait génial. Surtout, avoir un pilote français, on le répète quand même, en mesure de remporter des grands prix, ça fait tellement longtemps que ça ne nous est pas arrivé, ce serait absolument génial. Et je pense qu'une victoire ou à minima des podiums réguliers de Gasly pourrait encore donner un très très bel élan. Alors juste un mot, tiens, puisque vous avez raison de me charrier toujours avec Leclerc qui est monégasque. Bah, Monaco, il joue dans quel championnat, messieurs, en football? Il joue dans le championnat de France. Donc...
Ah oui, on est bien d'accord.
Bah, ils peuvent pas jouer tout seuls, sais bien. Mais
bon. Nous, on a envie. Hein. Nous, on a envie qu'il soit français, Charles Leclerc.
C'est monégasque.
C'est plutôt lui qui veut pas. Et quand on lui demande s'il n'était pas monégasque, qu'est-ce qu'il serait,
il irait pour Italie.
Italien, oui, voilà.
Donc, oui, je sais. Bon, bon. Allez, voilà, c'était juste une petite pique comme ça. Bon, on va dire que de toute façon, on a avec ces deux hommes-là, avec Leclerc et Gasly, on a quelques beaux espoirs de voir à minima des podiums et j'espère évidemment des
mais
victoires.
Mais pour répondre à ta question, Louis, en tout cas, le moteur Honda semble avoir gagné en performance, que ce soit en puissance.
En
le problème, c'est la fiabilité. Le souci, c'est ça. Alors,
parce que s'il va vite que sur 10 tours.
Pas 10 tours, mais s'il va vite sur deux grands prix et que Gasly est là et qu'il est en mesure de remporter une course, mais c'est vrai que c'est la fiabilité le souci. On l'a vu avec Toro Rosso. Après, dans quelle mesure aussi il faisait des tests pour l'année prochaine pour Red Bull, c'est toujours difficile. C'est sûr que ça manque de fiabilité, mais en tout cas en performance, on a gagné en vitesse de pointe, on a gagné en chevaux. Maintenant, voilà, il va falloir fiabiliser tout ça. Mais bon, Honda met quand même énormément de moyens. On ose espérer que ça va fonctionner, surtout pour Pierre Gasly.
Mais toi, Jean-Luc, imaginer des podiums pour Pierre Gasly la saison prochaine, c'est pas chimérique.
Ah non, pas du tout. Écoute, Lucas l'a très bien rappelé. Puis moi, j'aime à dire que ça n'est malheureusement pas un moteur. Si c'était un moteur, les motoristes de Honda sont des types formidables depuis toujours. On l'a vu à moto, on l'a vu en Formule 1. On rappelle les époques magnifiques où ils ont motorisé Williams notamment, etc. Bon, il y a eu des époques. Donc ce sont d'excellents motoristes comme ceux de Renault, et je tiens toujours à le rappeler. Mais c'est tout ce qui va autour, tout ce qu'on a greffé, tous ces systèmes de récupération d'énergie électrique. C'est là qu'on pêche évidemment chez Honda. Même si on commercialise, et on le sait depuis très longtemps, des voitures hybrides, hein, des voitures pour la route, comme Toyota, eh bien là, c'est très particulier en Formule 1, parce qu'il y a tout un tas de règles spécifiques, de récupération, de régurgitation, le mot n'est pas joli, mais c'est bien la vérité, de puissance électrique. Donc voilà, c'est pas un problème de moteur, c'est un problème d'ensemble propulseur, si vous voulez bien accepter l'expression.
Et bon appétit surtout. Si
on parlait du moteur, Jean-Luc, le moteur est important, certes, mais il n'est pas prépondérant, puisque on voit ce qu'a fait McLaren cette année avec le même moteur que Red Bull. Je pense qu'en termes de performance, on peut pas faire plus grand écart. Donc il faut aussi tout remettre tout ça en perspective. Le moteur a son importance, mais le châssis, l'aérodynamique et l'ensemble du fonctionnement de la voiture, des pneumatiques, c'est aussi très très important. Et on sait qu'on peut compter sur Red Bull en tout cas pour bâtir une monoplace solide, en tout cas du point de vue aérodynamique. Avec Adrian Newey, on est plutôt assuré et plutôt sûr dans ce cas-là.
C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, Lucas, toujours se rappeler, il y a des millièmes dans le moteur, des centièmes dans l'aéro et des secondes pleines dans les pneus. Donc c'est exactement ce que tu viens de dire. Donc il faut tout à fait un excellent châssis. Châssis, c'est un ensemble. Bien exploitation, sûr. Voilà. Le moteur en lui-même, le moteur tout seul, isolé, ben, il a une influence, mais sauf quand il casse, évidemment.
En un mot, Jean-Luc, la quatrième saison de Romain Grosjean chez Haas se profile. Il a raison de continuer à s'accrocher à cette équipe américaine. Est-ce que, à ton avis, c'est aussi qu'il n'a pas d'autres possibilités? Comment tu juges cette continuité?
Ben, c'est clair qu'il n'a pas d'autre possibilité, puisque quand il était en danger chez As, je ne crois pas qu'il ait eu beaucoup d'autres propositions. Donc c'était la seule, hein. En fait, on joue la fidélité chez As. Il y a très peu d'équipes qui restent inchangées, on l'a vu. Il y a notamment Mercedes également, mais c'est quasiment les seuls. Oui, je suis en train de parcourir. C'est les seuls qui ne bougent pas du tout. Donc c'est une. Puis encore une fois, sa deuxième moitié de saison justifie son maintien. C'est une évidence. Il connaît l'écurie, il connaît ses développements, il a le background. Bon, il forme un bon duo et effectivement avec Kevin Magnussen, les deux se poussent.
Absolument.
Ce qui n'est pas chose aisée, absolument. Ouais, je crois qu'ils ne partent pas en vacances ensemble, hein, Lucas, tu as les mêmes infos que
moi. Non, ils ne partent pas en vacances ensemble, mais ils s'entendent quand même plutôt bien, ouais. Kevin Magnussen et Romain Grosjean. Bon, après, tu le disais, Romain Grosjean a fait une très belle deuxième partie de saison et je pense que son ancienneté chez As a joué. S'il avait été chez As depuis 2 ans ou depuis seulement une année, peut-être qu'il ne serait pas resté.
Oui, parce qu'il faut se souvenir qu'il a porté le projet au début et qu'il a réussi de bons résultats. Il y aura une écurie française la saison prochaine, oui. Renault toujours, qui a terminé quatrième cette saison. On est dans le tableau de marche fixé au moment du retour de Renault comme écurie. Simplement, si on se fie à ce tableau de marche, Jean-Luc, l'année prochaine, il y a des podiums.
Alors là, la marche va être très très haute.
Il est dubitatif, Jean-Luc.
Oui.
Voilà. Tu sais, c'est monté sur la boîte, comme on dit, mais elle est haute la première. Ouais. Ouh là 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 là. Donc effectivement, pourquoi? Parce qu'il y a ces trois écuries dominantes. On vient de l'évoquer. Je ne vois pas Mercedes et Ferrari régresser totalement. Ça, c'est pas possible. Donc déjà, en gros, les deux premières places en termes d'écurie, elles sont prises. On vient d'évoquer longuement le cas Red Bull. Ça dépendra de la fiabilité, et pas d'autre chose, du moteur Honda qui propulsera la Red Bull. Donc il va falloir, c'est difficile, hein, parce que là l'ambition, si c'est d'aller chercher Red Bull, je pense qu'il y a encore du terrain à faire. On l'a vu régulièrement. On dit toujours cette expression qui est pas très élégante non plus, c'est premier des autres, premier de, autre que les trois premiers. Donc ça va être très difficile pour Renault de monter plus haut que quatrième, évidemment.
Allez, dans un instant, la moto au programme de Motors et de Radio Paddock. Mais d'abord un tour de nos directs. Le rugby. La 11e journée de top 14, c'est reparti à Perpignan, entre Perpignan et l'UBB, Julien Landry.
Ouais, reparti depuis 7 minutes, le score n'a pas évolué, toujours 7-5 en faveur des Bordelais, mais les Catalans qui sont de plus en plus pressants. Ils viennent de mourir à 3 mètres de la ligne d'essai de l'UBB, sauvés par un magnifique retour de Radradra. 7-5 pour l'UBB, reparti depuis 8 minutes.
Le foot anglais, la 14e journée de Première Ligue, Chelsea Fulham, Jordan Olivier.
À 3 minutes de la mi-temps, c'est Chelsea qui mène 1-0 depuis la 4e minute, un but de Pedro. Il y a quelques instants, Olivier Giroud s'est mis en évidence, il s'est présenté seul face à Sergio Rico, le gardien espagnol, mais a buté sur Sergio Rico. Donc Olivier Giroud qui aime bien les derbies londoniens puisque c'est son 50e derby. Il a marqué 18 buts pour l'instant en 50 derbies londoniens. Il a encore le temps de marquer. 42e minute, 1-0 pour Chelsea.
Et puis je vous rappelle une autre information football. L'équipe de France tombera dans le groupe H des qualifications au prochain Euro. Ça sera en 2020. Les adversaires des Bleus, l'Islande, la Turquie, l'Albanie, la Moldavie et Andorre. 13h43, Motors revient tout de suite pour parler de MotoGP.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Avec Jean Lecroix, on est ensemble jusqu'à 14h. On retrouvera ensuite Christophe Cessieux pour l'Intégral Sport. 13h44 sur RMC, Benoît Boutron nous a rejoint. Ça en général, ça veut dire que c'est à l'heure de Radio Paddock.
RMC, Motors.
World Champion! Oh my God!
Radio Paddock.
Salut Benoît.
Salut les amis. Je crois qu'elle dire ça, c'est toujours une bonne nouvelle.
Oui, mais c'est aussi toujours une bonne nouvelle. C'est aussi toujours un plaisir de te voir débarquer dans le studio.
Salut Benoît.
Benoît, on va commencer évidemment par le MotoGP. Un instant, on sera avec notre invité Jean-Claude Augrel. Mais d'abord, des essais privés comme en F1 ont eu lieu cette semaine.
Oui, et pas mal d'enseignements à en tirer. On a un pilote qui s'est détaché quand même, qui a été exceptionnel, notamment à Jerez en Espagne. C'est Nakagami qui a été le meilleur sur sa Honda. Petrucci termine deuxième de cette séance d'essai avec sa Ducati. Marc Marquez est là, évidemment, à la troisième place. Mais ce qu'on a surtout envie de retenir, Louis et Jean-Luc, c'est la performance de Fabio Quartararo. Vous le savez, il a roulé en Moto 3, il roulait en Moto 2 l'an passé. Il va découvrir le MotoGP cette saison avec son team Petronas Yamaha SRT. Et finalement, Quartararo fait le 12e temps à Jerez, juste derrière un certain Valentino Rossi. C'est quand même une sacrée perf pour lui. Et on espère que ça va se poursuivre ainsi, hein, Jean-Luc. C'est bien pour Quartararo.
Ah, c'est très bon. Écoute, Fabio, on sait qu'il est talentueux depuis le début, hein, depuis ses participations au championnat espagnol en Moto 3 quand il était tout jeune. Il a eu un peu plus de mal ensuite en championnat du monde et puis en Moto 2 avant cette dernière saison où il a brillé. Je pense que là, il va être à son affaire. Il a un gabarit également qui lui permet. Puis tu sais, il y a certains pilotes qui s'adaptent mieux aux motos très puissantes et très rapides. Ouais. Je pense que c'est le cas de Fabio.
Alors, petit point technique d'ailleurs, parce qu'il a eu certaines déclarations à la fin de cette séance d'essai libre. Il a dit justement qu'à Valence, il avait eu du mal à gérer l'accélération à cause du wheeling. Le wheeling, on rappelle, c'est que c'est la roue avant qui se soulève. Ça aussi, c'est une certaine adaptation, puisque les motos de MotoGP sont beaucoup plus puissantes qu'en Moto 2 ou Moto 3. Jean-Luc, il va falloir un petit peu de temps pour lui pour s'adapter, non ?
Ah oui, il y a pas photo. Puis il y a une partie électronique qui est heureusement d'ailleurs beaucoup moins importante qu'en F1, mais on doit gérer effectivement ces paramètres et modifier la moto pour qu'elle convienne parfaitement à son pilotage. Alors du wheeling, on en fait toujours quand on voit les sorties de courbe de Marc Marquez, notamment. On a bien compris avec le guidon quasiment en buté, donc on a bien compris que ça se passait, mais il faut le maîtriser, il faut l'adapter. Et ce sont d'excellents débuts de Fabio Quartararo, qui de surcroît ne s'est pas fait mal, hein, c'est très important, qui est au milieu du paquet. Comme tu le disais, tout proche quand même du nonuple champion du monde, c'est pas mal. Hein.
Tu fais un peu de wheeling en vallée de Chevreuse ?
Écoute, avec ma FJR 1300, j'ai un peu de mal. Puis le jeu, tu sais, il y a des chevreuils qui traversent. Donc...
Ah oui.
et tu es respectueux de la nature.
Ça, c'est... Exactement, ça, j'adore tombe, les animaux.
13h47, on continue à parler de moto. On va accueillir ton invité, Jean-Luc, ancien pilote moto, Jean-Claude Augrel, un habitué de Motors. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour à tous.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Salut Jean-Claude, c'est toujours un plaisir de t'accueillir sur cette antenne et dans cette émission. Écoute, on va revenir sur ces tests. Alors, tu nous as peut-être entendu parler de F1 et des essais post Grand Prix d'Abu Dhabi où on testait les pneumatiques. C'est vrai que d'abord là à moto, ce qui fait plaisir aussi, c'est de voir les pilotes sous leur nouvelle couleur déjà, hein, parce qu'on l'a pas clairement évoqué en F1, mais là ça fait plaisir, d'autant que il y a un nouveau Français dans la catégorie Rennes.
Oui, alors c'est honnêtement la saison 2019, j'ai hâte d'y être parce que j'ai regardé évidemment Valencia et Jerez et il y a 14 pilotes dans la même seconde. Il y a une petite anecdote d'ailleurs, à chaque fois le 14e c'est Johan Mir qui lui aussi arrive en MotoGP. 14 pilotes dans la même seconde en MotoGP, on est habitué à ça en Moto 3. En Moto 2, mais en MotoGP c'est rare, vu la puissance c'est quand même pas facile à gérer. Et évidemment les débuts. Alors là, je suis vraiment extrêmement étonné de la performance de Fabio Quartararo. Il était à 1,5 seconde à Valencia, il finit à 8 dixièmes à Jerez. Spectaculaire.
Ah oui, dans cette équipe privée, en plus Petronas Yamaha, on le rappelait, donc c'est le team satellite en fait qui succède, on peut dire ça comme ça, Jean-Claude, à Tech 3, hein, Yamaha, l'équipe d'Hervé Poncharal qui est passée avec KTM.
Exactement. Alors, honnêtement, il est censé avoir une moto privée. Morbidelli est censé avoir une réplique des motos d'usine, mais Fabio a une moto normalement privée classique, la même que celle qu'a pu utiliser Ciarine, par exemple, ou Johan en 2018. Et vraiment, être à 8 dixièmes des meilleurs temps, bon, alors ce ne sont que des essais, on est d'accord, on teste des pièces, etc., etc., mais quand même, c'est extrêmement étonnant. Au début, il disait que les freins étaient extrêmement surprenants, les freins carbone, c'était quelque chose de tout nouveau pour lui, il a eu du mal à s'habituer. Eh ben écoutez, moi j'aimerais bien m'habituer comme lui assez rapidement.
Ben oui, tu as raison. Alors, je parlais un petit peu d'électronique, puisqu'on évoquait le wheeling avec Benoît il y a un instant. C'est vrai que ces machines de Grand Prix qui délivrent, allez, grosso modo, 300 chevaux. Hein. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on passe 300 chevaux au sol sur le format à peine d'une carte de crédit.
Oui, alors ça c'est toujours très surprenant. Alors évidemment, il y a quand même un peu d'électronique, hein. Il y a quand même de l'anti-wheeling, il y a de l'anti-patinage. Heureusement, parce que je crois qu'autrement ça serait complètement impilotable. Quand on passe que Fabio ou même Johan, par exemple, il y a 2 ans, passe d'une moto qui faisait 120 chevaux à une moto qui en fait 260 au bas mot, franchement, l'adaptation de ces pilotes me surprend. J'ai eu moi dans ma carrière l'occasion de passer d'une 250 à une 750 au W31 à l'époque, et je me rappelle le temps qu'il a fallu que je me fasse au changement de panneaux de freinage qui sont plus du tout les mêmes, à la vitesse qui est plus du tout la même. Là, franchement, je suis très étonné et j'ai hâte d'être à la saison 2019.
Jean-Claude Augrel, ancien pilote moto, est l'invité de Motors en direct sur RMC. Jean-Luc.
Oui, et puis j'allais te dire, Jean-Claude, parce qu'on est obligé d'évoquer des vieux souvenirs, on a même fait course de moto ensemble, ça ne nous rajeunit pas.
C'est clair.
Oui, à l'époque, c'était tout ou rien. Hein, tu te rappelles? C'est-à-dire que, et toi, tu le faisais avec beaucoup plus de talent que moi, mais quand tu remettais les gaz, c'était direct. Là, pour le coup, c'était du brutal.
Oui, oui, oui. Alors, les choses ont bien changé, heureusement, parce que c'est plus du tout la même puissance non plus. Hein. Maintenant, les motos ont extrêmement évolué. Rouler avec une moto moderne maintenant, quand on rentre dans un virage, on se demande comment on peut perdre l'avant. Bon, on finit par trouver, hein. On finit oui. par perdre l'avant quand même. Mais honnêtement, tout a évolué d'une manière énorme, considérable, et tant mieux, et ce n'est que mieux pour le spectacle. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai une petite image, mais vous allez dire encore que... Voilà, honnêtement, j'ai dit, tiens, on va passer à un vrai sport, on va parler de moto. Franchement, un grand prix maintenant, quand on voit ce qu'est capable de réaliser Marquez, ou même Rossi sur un grand prix. Alors, c'est pas un pilote d'essai, on le sait. Là, il est à peine juste devant Fabio, mais en course, il est toujours redoutable.
Oui, tu parles de Valentino vraiment, Rossi, bien sûr.
Évidemment, évidemment. Je trouve que cette saison 2019, ça va être bien. Hein. Lui qui veut toujours gagner un dixième titre, ce fameux Valentino Rossi, et les nouveaux qui arrivent. Regardez ce que fait Francesco Bagnaia, ce que fait Morbidelli avec la Yamaha. Honnêtement, c'est impressionnant. Joan Mir, qui finit à chaque fois le dernier des pilotes dans la même seconde que le premier, c'est étonnant et ça va être extrêmement intéressant.
Alors, on en revient au haut de grille, si tu veux bien, Jean-Claude, et notamment Marc Marquez, bon, qui est troisième à Valencia et qui est deuxième, d'autant qu'il est blessé. On sait qu'il va passer sur le billard pour son épaule qui avait été démolie.
Oui, tout à fait. Mais l'homme caoutchouc, comme je m'amuse à l'appeler, pour une fois, il s'est un peu fait mal, oui. Mais oui, bien sûr, il est un peu blessé. On note aussi dans ses essais le retour de Jorge Lorenzo avec la Honda. Oui. Il s'est fait assez vite à la moto. Il est de plus en plus près. Lui aussi est blessé.
Il va repasser sur le billard pour la cheville, hein, le pied.
C'est ça. Donc, ça veut dire que tous ces gens, quand ils vont être en forme pour le premier Grand Prix de la saison, ça va être une saison extraordinaire. Lorenzo, pour aller chaque année sur les Grands Prix, Lorenzo, c'est un pilote d'une propreté phénoménale, exemplaire à regarder. Pendant 20 tours, il passe sur le même gravillon au centimètre près. Je me dis qu'avec la Honda, ça va être très très bien. Et tout, en fait, tout m'excite. Là, vraiment, cette saison 2019, j'ai hâte.
Et puis l'affrontement entre les deux monstres, hein, tu viens de le dire, Jorge Lorenzo, qui a pas en général de très bonnes relations avec son équipier, il arrive chez Marc Marquez, qui est tenant du titre et qui est chez Honda et qui a fait la moto à sa mesure. Donc effectivement, je pense que ça va être un paroxysme, hein, cet affrontement des deux pilotes chez Honda.
Oui, pour l'instant tout va bien parce que pour l'instant Marquez est tranquille. Donc pour l'instant ils s'entendent très bien, ils font des beaux sourires. Je pense que ça risque de se gâter au fur et à mesure de la saison et en fonction de ce qui va se passer dans le team et en fonction de celui qui sera devant. Mais tant mieux. C'est exactement la même chose avec Vinales et Rossi. Pour l'instant tout va à peu près bien. À partir du moment où Vinales va avoir une moto qui sera un peu plus adaptée à ce qu'il demande depuis un moment, ça va plus être la même chose. Mais c'est comme ça dans toutes les équipes. En fait, c'est comme ça dans le sport. On veut toujours être le plus grand, le plus beau et le plus fort. Et forcément, il y a un moment où son coéquipier nous gêne.
Jean-Claude Augrel, vous restez avec nous dans Motors, Radio Paddock, Benoît Boutron,
oui.
Avec une autre info concernant la moto,
oui.
Une info dont je salive par avance à l'idée d'imaginer Jean-Luc réagir.
Et voilà, une info climatique, puisque la moto électrique, et oui, ça débarque, ça y est, malgré le lobbying de notre ami Jean-Luc Roy, elle va débarquer, la moto électrique. Bon, il est quand même content, puisque certains de ses amis vont y participer.
Oui.
Déjà, première indication, Jean-Luc, c'est pas des trottinettes, hein, c'est des vraies motos, c'est-à-dire que c'est le même système qu'une moto normale.
Oui, je te mets à l'aise. Oui, ce sont des vraies motos. Bon, je crois que tu sais, il faut sacrifier ça. On en reparlera. Tu verras de l'électrique et dans pas si longtemps que ça. Je pense que Carlos Tavares, un des grands patrons français de l'automobile du groupe PSA, qui émet toutes les réserves d'usage. On se retrouve tout à fait bien là-dessus. Plutôt, je le retrouve. Bon, ce que tu pourrais être plus sérieux.
Depugnier,
Dimeglio.
Voilà.
Pardon.
Ouais, donc il y aura trois Français, Depugnier, Dimeglio et Forêt. On rappelle que c'est un championnat du monde, donc il sera tout à fait officiel. Il y aura 5 étapes l'année prochaine pour cette première année de lancement. Il y aura Jerez évidemment le 5 mai, il y aura Le Mans le 19 mai, donc il y aura de la moto électrique en France, le Sachsenring le 7 juillet, après l'Autriche et Misano. Donc en fait, avant les Grands Prix de MotoGP, Moto 2, Moto 3, on aura une course de moto électrique. C'est quand même plus intelligent entre guillemets que la Formule E, puisque là il y a une vraie correspondance, Jean-Luc.
Oui, ben voilà, c'est en prélude au vrai Grand Prix, j'ose dire. Et on a bien fait, on a été malin chez Dorna, comme toujours, on a bien fait de créer cette sous-catégorie, j'ose le dire, avec 5 épreuves. J'espère que ça va pas amputer, en tout cas, le Grand Prix moto de quelques tours. Il en était question, parce que ce serait extrêmement dommage.
Ouais. Jean-Claude Augrel, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution?
Ah ben voilà, c'est l'air du temps. Forcément, c'est pour l'instant, j'ai tendance à dire, c'est pas ma génération quoi. Ça m'excite pas le bruit. Moi, j'ai besoin de tout ça. Le bruit, les grands pilotes, un départ de Grand Prix, c'est quand même phénoménal. Le bruit d'un départ de Grand Prix, c'est vous gardez ça dans votre tête toute votre vie. Alors évidemment, pour l'instant, je regarde ça avec un petit peu de recul. Après, à voir. J'irai voir. Avant de dire quoi que ce soit, j'irai voir. Mais c'est vrai qu'au départ, je suis pas à 100%, quoi.
Merci Jean-Claude Augrel d'avoir été avec nous. Et à très bientôt.
Avec plaisir.
Dans Motor.
À bientôt, Jean-Luc.
Belle journée à vous.
Salut Jean-Claude.
On termine Radio Paddock, Benoît, avec un mot de Sébastien Loeb.
Évidemment, un mot de WRC, puisqu'on n'aura pas de Sébastien Loeb en WRC en 2019. La raison est très simple. Vous le savez, il a fait quelques piches cette saison chez Citroën. Citroën n'a plus le budget en 2019 pour aligner une troisième voiture donc, puisque Citroën a perdu un sponsor important à Abu Dhabi, donc pas le budget nécessaire. Jean-Luc, j'ai l'impression que ça arrange bien Citroën aussi, qui réintègre, on le rappelle, Sébastien Ogier. Comme ça, t'auras pas non plus la concurrence entre les deux Seb qui sont tous les deux des champions en rallye. Hein.
Je pense que tu as assez bien résumé le souci, je pense, chez Citroën. C'était, on l'a vu, hein, lorsqu'ils sont revenus au dernier rallye de Catalogne, si jamais Sébastien Loeb et Daniel Elena étaient venus chercher des points et enlever des points, effectivement, à Sébastien Ogier et Julien Ingrassia dans la bataille pour le titre, c'eût été quelque part se tirer une balle dans le pied. Donc maintenant, on aurait pu avoir cet équipage avec, évidemment, on va dire, des consignes de pas agresser, de ne pas aller chercher Ogier. Mais bon, il aurait pu y avoir des décisions difficiles. Ben, ce ne sera pas le cas pour des raisons sordidement financières une nouvelle fois. On a bien compris que la contribution d'Abu Dhabi était importante. Et par parenthèse, il y a deux pilotes qui font partie des dégâts collatéraux. Et oui, c'est Mats Osberg et Craig Breen qui se retrouvent à pied, puisque la troisième voiture potentiellement engagée sur certains rallyes par Citroën, elle ne sera pas là non plus.
Merci Jean-Luc.
C'est toujours un plaisir.
À la semaine prochaine dans Motor.
Salut Benoît.
13h, 14h, belle journée à toi et à très vite sur RMC. Rapidement, un tour de nos directs. Perpignan, UBB, la 11e journée de top 14, Julien Landry.
Ah, et ça se complique pour les Catalans qui n'arrivent pas à être décisifs. Et il y a eu un nouvel essai bordelais, doublé de Buros. Ça fait 14-5 pour les Bordelais. Peut-être 11e défaite de la saison pour les Catalans.
Le foot anglais, c'est la mi-temps entre Chelsea et Fulham. Jordan Olivier.
C'est Chelsea qui mène 1-0 grâce à Pedro dès la 4e minute de jeu. Des joueurs de Mauricio Sarri qui ont réalisé une première bonne mi-temps, pas vraiment mis en difficulté par Fulham donc, et qui mène logiquement 1-0.
La suite de ces événements dans l'intégral sport qui arrive tout de suite avec Christophe Cessieux. Moi je vous retrouve à 16h, à tout à l'heure.